Είσαστε εξωθενωμένοι, φαντάζομαι, και δεν ξέρω πώς να μαζέψω αυτά που έχω να σας πω και σε ποια γλώσσα να τα πω. Και αυτό δείχνει ακριβώς την κρίση της ταυτότητάς μας, της θεσμικής και της προσωπικής. Για να είμαι δίκαιη, λοιπόν, με τις δύο appartenance που λέμε, θα μιλήσω λίγο ελληνικά στην αρχή, μετά γαλλικά, γιατί πρέπει να καταθέσω και το λόγο μου στον οργανισμό μου, γιατί νομίζω σας ενδιαφέρει και αυτό, να πω και εκεί αυτά που είδα και άκουσα εδώ, και θα τελειώσω πάλι με ελληνικά. Δηλαδή, θα είναι μια παρένθεση η γαλλική. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν πόσο χαίρομαι και πόσο, με πόση χαρά ήρθα σε αυτό το συνέδριο, γιατί αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή της κρίσης τέτοιες ευκαιρίες, τέτοιες αγορές ιδεών, νομίζω θα ανυψώσουν το ηθικό και θα δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό λόγο. Πραγματικά χαίρομαι και συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την, όχι την σημερινή συνάντηση που είναι μια αρχή, αλλά στη σύλληψη του προγράμματος που με συγκινεί πραγματικά. Και το λέω γιατί η λέξη «διάλογος» είναι η λέξη κλειδί στη δουλειά μου στην UNESCO ως Διευθύντρια της Πολιτιστικής Πολιτικής και του Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Εάν δεν θέλουμε αυτός ο οργανισμός, όπως τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα, να γίνουν μια, αυτό που λέμε, κοκκίη βίντε, ένα άδειο κοχύλι, ένα άδειο όστρακο, χωρίς να λένε τίποτα, αλλά η πολιτιστική πολιτική να είναι πολιτική και πολιτισμός. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αρχίζω από δύο ανέκδοτα πολύ προσωπικά που με έχουν σοκάρει όταν πήγα στη Γεωργία για ένα αντίστοιχο συνέδριο και όλες, πολλές κοπελίτσες στο δρόμο ονομάζονταν Μύδιες. Συγκλονίστηκα. Ακόμη και εγώ που έχω δουλέψει τόσο πολύ για την πολιτιστική πολυμορφία στην UNESCO, δεν μπόρεσα να φανταστώ ότι η Μύδια στη Γεωργία μπορούσε να ήταν ένα όνομα που ακόμη μπορούσε να το φέρνει κανείς με περηφάνεια. Το δεύτερο σοκ μου, πάλι με τις λέξεις, επίτηδες έχω πάρει λέξεις που δεν είναι τυχαίες φυσικά. Ο Προμηθέας. Όταν είχα πάει στο Αζερβαϊτζάν, στον Μπακού, για κάτι αντίστοιχο, δεν λέμε λεπτομέρειες, δεν χρειάζονται, και είχα πάει να δω τη ζωροαστρική λατρεία και πώς αυτό που εξηγήσατε λίγο πριν, που είχε έρθει από την Ινδία, λατρευόταν εκεί φυσικά λόγω Περσίας, γιατί αυτά τα κράτη ήταν, το ξέρετε πολύ καλά από την ιστορία και τη γεωγραφία συνδεδεμένα. Λέμε, λαοσχήλος και πάλι, ότι ο Προμηθέας είχε καταδικαστεί και είχε αλυσοδεθεί στον Κάφκασο. Σαν να έγινε μια αποκάλυψη στο μυαλό μου, γιατί έβλεπα τις μικρές φλογίτσες ακόμη να βγαίνουν σε ένα χιονισμένο βουνό. Που σημαίνει ότι οι φωτιές από φυσικά φαινόμενα υπάρχουν πάντα γύρω στην περιοχή του Καυκάσου. Και διαρωτώ με. Δεν λέω τίποτα περισσότερο για να μην γίνω εικονοκλάστης, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω τις συγκινήσεις αυτές, που νομίζω είναι πολύ ενδεικτικές αυτών που μπορεί κανείς να αισθανθεί όταν έχει ένα μικρό αλφαβητάρι διαπολιτισμικό στην τσέπη του. Ο Προμηθέας, λοιπόν, νομίζω ότι έκλειψε τη φωτιά από εκεί και γι' αυτό αλυσοδέθηκε εκεί. Τελευταία λέξη, που επίσης με συγκίνησε γιατί μου την είπε ένας Καταλανός, για το Hajj, το Πελερινάζ, το προσκύνημα στους ιερούς τόπους, κυρίως των μουσουλμάνων. Αλλά φαντάζομαι και των άλλων, γιατί όταν ο ένας μουσουλμάνος πάει στη Μέκα, για αυτό που πρέπει να κάνει μια φορά στη ζωή του, εξαγιάζεται και στην επιστροφή του λέγεται Hajj. Στα ελληνικά επίσης και στα κυπριακά έχουμε τη λέξη Χατζή Αργύρης, Χατζή Ανέστης, Χατζ κτλ. Ένας Καταλανός καθηγητής μου είπε ότι το Hajj προέρχεται από το Άγιος. Και εγώ δεν το είχα φανταστεί. Λοιπόν, με αυτά μόνο θέλω να σας πω τώρα κάτι στα γαλλικά για να έχω, όπως σας είπα, και λίγη τάξη στη σκέψη μου για αυτά που θα σας πω, αλλά δεν θα μείνω τόσο πολύ στο ενοιολογικό κομμάτι, θα μείνω πιο πολύ στο ποιητικό-πολιτιστικό, αλλά που είναι βαθιά πολιτικό. Ταυτόχρονα ήθελα να σας πω, και το ξέχασα στην αρχή, πόσο συγκινημένη αισθάνομαι γιατί γύρω μου, μέσα στο ακροατήριο και στο χώρο αυτών, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την UNESCO και που έχουν εργαστεί. Ήταν προηγούμενοι πρέσβεις, η πρόεδρος της UNESCO, της Εθνικής Επιτροπής, και τόσοι άλλοι επιστήμονες που κατά καιρούς έχουν καταθέσει τη γνώση τους και έχουν εμπλουτίσει αυτή τον προορισμό αυτού του οργανισμού, που είναι καθαρά ανθρωπιστικός. Λοιπόν, στα γαλλικά, λίγα λόγια. Aucune société humaine n'a vécu ni ne peut vivre sans créer un monde de pensées, de formes ou de sons qui signale sa spécificité et constitue des langages à vocation universelle. Il n'est pas nécessaire d'être allemand pour apprécier le Carmina Burana de Karl Orff, ni d'être japonais pour contempler la grande vague de Kanagawa, chef-d'œuvre de Hokusai, ou russe pour vibrer au rythme d'une chorégraphie de Nijinsky, etc., 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 ni africain pour admirer un masque d'Ogon. De la même manière, le Clésio a dit lors de la disparition de Salinger, janvier dernier, quelqu'un, un écrivain, à l'autre bout du monde, pouvait parler de ce que je ressentais, de ce que je désirais, raconter une histoire qui ne pouvait pas m'être advenue de telle façon qu'elle faisait partie de mes souvenirs et de mes émotions, qu'elle me donnait à réfléchir, non pas par quelques messages lourdement assénés, mais par une sorte de touche légère, drôle et pathétique, et la foi à la fois. Et toute ma vie en serait changée. Fin de citation. Τα ίδια είπε και ο Σέλεϊ περίπου, σε μια άλλη εποχή, φυσικά, όταν έδειξε ότι les artistes, les écrivains et les philosophes sont les véritables législateurs, pourtant méconnus. Fin de citation. Car la force du verbe et de l'image façonne de manière indélébile le monde des pensées, les relations humaines, la vie en société, notre rapport avec la nature. En admettant ces liens de l'esthétique et du politique, nous réaffirmons que la justice, l'équité et la liberté n'ont pas de meilleurs serviteurs que la culture et l'art, qui sont par excellence des sites de dialogue. Pour illustrer ces liens entre l'esthétique et le politique, le détour par la culture grecque est incontournable. L'accueil ou le rejet de l'altérité y sont illustrés par une série de mots et de mythes, créateurs à leur tour de concepts et de lois. J'en retiendrai un seul, celui de Danaïde. Ces filles de Danaos, venues d'Égypte, avec un accoutrement étranger, une langue incompréhensible, cherchent une terre d'accueil en Argos. Leur errance, qui a inspiré tant de dramaturges, d'artistes et de philosophes, d'Eschyle, les suppliantes, à Rodin, la Danaïde, à Julia Kristeva et à Lévinas, a forgé le concept essentiel de philoxénie, c'est-à-dire d'hospitalité, véritable réponse à la xénophobie et même la xénélasie, expulsion des étrangers appliquée à Sparte. L'accueil de l'altérité, la philoxénie, est un des concepts clés de l'époque contemporaine, puisqu'il s'agit de la gestion de la diversité culturelle dans l'espace public, où des politiques doivent être négociées à tout moment pour redéfinir le contrat social et culturel entre citoyens. Vous voyez sur cette image, αυτή την εικόνα την βρίσκω εκπληκτική, είναι στο μουσείο, στο μουσείο Ροντέν στο Παρίσι και την έχει κάνει η Καμίγη Κλοντέλ, λέγεται, θα με διορθώσετε αν είναι, λέγεται πάντως ότι έχει κάνει μάλλον η Καμίγη Κλοντέλ και παριστάνει το ίδιο της το πάθος, την ίδια της την ηκεσία για διάφορα θέματα που μπορεί να είναι προσωπικά ή άλλα. Σημασία έχει ότι αντί να την ονομάσει La suppliante la limite, τέλος πάντων, την ονομάζει La Danaïde. Ποιος από όσους προσέρχονται στο μουσείο αυτό γνωρίζει το μύθο. Δύο λόγια για την αποστολή της UNESCO. Si l'UNESCO s'érige, selon son mandat, en agora des idées et en législateur mondial, c'est précisément qu'elle a la bonne fortune de pouvoir rassembler toutes les forces vives du génie créateur de la féconde diversité des cultures du monde. Elle aspire à affirmer ou reconstruire l'unité fondamentale de l'humanité, à retrouver cette langue mère que chacun peut entendre et parler, quelles que soient ses racines ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques ou autres. Deux mots sur le cadre conceptuel. Quelques précisions terminologiques, car selon Hegel, c'est un mot que nous pensons. Qu'attendons par mémoire, histoire, éducation, culture? La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants. Et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, inconsciente de ces déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L'histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus. La mémoire est un absolu, dit Pierre Nora, et l'histoire ne connaît que le relatif. Il faut insister sur cette dimension symbolique puisqu'elle caractérise par un événement une expérience vécue par un petit nombre, une majorité qui n'y a pas participé, conduisant à un raisonnement identificatoire, circulaire du collectif et de l'individuel. L'éducation en deux mots. D'après Dewey, elle correspond mieux au caractère, à la nature, je dirais, interculturelle. Education is that reconstruction or reorganization of experience which increases ability to direct the course of subsequent experience. Ainsi, le concept du développement en termes éducatifs signifie that the educational process has no end beyond itself. It is its own end, and that the educational process is one continual reorganizing, reconstructing, transforming. Educare, nourrir et élever, et éduquere, tirer hors de, conduire vers. Deux conceptions qui devaient être complémentaires sont en réalité contradictoires. Et les questions qu'on se pose toujours, qui sait et d'où sait-on? Que et comment sait-on? Sur quoi sait-on et avec quel effet? Il faut que je vous cite à cette occasion ce que Deleuze dit de l'apprentissage. Apprendre, c'est d'abord considérer une matière, un objet, un être, comme s'il émettait des signes à déchiffrer et interpréter. C'est pour cette raison que j'aimerais citer à cette occasion Héraclite, qui a dit, pour l'oracle de Delphes, « Ute legi, ute crypti, ute simeni ». Pour la culture, j'ai un long passage sur la culture. Je vous fais l'économie du texte. Seulement, en deux mots, la culture pour l'UNESCO n'est pas seulement une référence au passé, c'est un projet, et là, une nature dialogique, elle se refait à tout moment important, stratégique de sa vie, de la vie de ces individus et des groupes qui la composent, et donc on fait bien la différence entre culture et diversité. Cette prise, la culture donc ne prédétermine pas les individus, encore moins leur comportement. Elle peut cependant devenir un facteur d'identification a posteriori, lorsque l'exclusion économique, sociale ou politique frappe plus particulièrement certains groupes précis. Elle devient un refuge pour les individus désaffiliés, comme dirait le sociologue Castel, à la recherche d'éléments de référence identitaire que ni l'école, qui n'est plus cette machine intégratrice d'antan, ni la société qui a perdu de sa force symbolique, ni l'État, qui n'est plus porteur d'un projet commun, ne peuvent lui apporter. Cette prise de conscience ne doit induire ni l'autarcie culturelle, ni le négationnisme culturel, ni le darwinisme culturel, mais la compréhension du mécanisme du passage de la différence à la diversité qui suggère une profonde évolution des perspectives. On fait bien la différence entre les termes « différence » et « diversité ». Donc, ce que l'UNESCO propose à la place de « différence », c'est le terme de « diversité ». Et je fais encore appel à Derrida, qui, pour lui, la différence ne s'écrirait pas avec un « e », mais avec un « a », parce qu'elle viendrait de notre verbe, parce qu'elle offre des stratégies de retard, de sourcils, d'élision, de détour, d'ajournement, de réserve, donc loin de fixité. Deux mots sur le terme « dialogos ». Vous l'avez attendu le matin, j'ai un gros passage, un long passage sur ce terme, parce que je le vois massacré aux organisations internationales. Tout le monde fait la confusion entre « dia duo » et « dia trans ». Il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes qu'il s'agit de « dia trans », c'est-à-dire la mise en commun et la mise en question, nos certitudes bien établies, pour en trouver peut-être une autre vérité, une autre voie encore provisoire. Ne pas oublier le mythos qui est dans le logos, dans l'oralité, sous l'attente, qui est très, très, très importante. Tout ceci est dans la communication écrite. Je voudrais vous dire que le patrimoine, comme notion, comme métaphore de ce que nous sommes en train de dire ici, et la modernité, c'est-à-dire comment le patrimoine, cette épaisseur de valeurs exprimée dans le temps, peut être toujours vécu, recréé et réapproprié. Je voudrais juste vous dire le vers de René Char quand il affirmait que notre patrimoine n'est précédé d'aucun testament. Ceci n'ouvre pas les portes grandes pour l'usurpation de l'histoire, mais pour dire ce que vous, plusieurs panélistes depuis ce matin ont dit qu'il s'offre à tous, en partage, mais pas de confiscation. Je voudrais dire un mot pour Victor Hugo, parce que Victor Hugo, il y a 160 ans presque, en 1861, a dit quelque chose d'extraordinaire quand il a vu les Français et les Anglais massacrer le palais d'été en Chine lors de la Deuxième Guerre d'Opium. Vous dites, monsieur, pourquoi je vous dis ce que je vous dis? Voilà mon avis. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. L'art a deux principes. L'idée qui produit l'art européen et la chimène qui produit l'art oriental. Le palais d'été était l'art chimérique, ce que le Parthénon est l'art idéal, etc., etc. Il continue et il finit. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Je n'ai pas le temps de vous parler de la citoyenneté culturelle, qui est mon idée de développement en ce moment, parce que j'espère et je cherche. Où est l'argot? Bon, il faut que je revienne. Pardon, il faut que je finisse quand même avec argot, parce que voilà. Et le terme de citoyenneté culturelle, Constantinos n'a même pas aidé pour me dire comment on peut dire en grec citoyenneté. J'espère que le terme de citoyenneté culturelle va nous aider tous à vivre la mondialisation autrement. Dernier mot. Todorov a utilisé le terme d'argot pour représenter l'identité culturelle. Il a dit que argot, à travers le temps, à travers les vagues, à travers les tempêtes, a dû changer plusieurs de ses éléments. Pourtant, les argonautes n'ont jamais perdu l'essence qui voyageait toujours sur argot. C'est cette idée, cette image sur l'identité qui donne pour nous. Et je crois que c'est une très belle image. Post-scriptum. Ο όρος ημί της αγοράς είναι μία στήλη που την ξέρετε όλοι στην αρχαία αγορά. Θυμίζω πάρα πολύ συχνά στους συνομιλητές μου ότι είναι μία ευτυχής συγκυρία ότι η Ελλάδα έχει την ίδια λέξη, από την ίδια ρίζα βγαίνει η λέξη ορισμός και ορίζοντας. Ο ορισμός λοιπόν είναι μία κλωτούρ, ένα κλείσιμο της έννοιας, αλλά ταυτόχρονα δίνει στον ορίζοντα, δίνει την έννοια του ορίζοντα για νέα ξεκινήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι ένα σημαντικό μήνυμα σήμερα στο συνέδριό μας αυτό που λέω.